Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons parler maintenant, pendant une petite heure, des transports et du futur du transport sur notre planète, ou ailleurs, partout. Parce que l'on ait envie d'aller ailleurs, sur d'autres planètes, sur d'autres continents, simplement au coin de la rue, on a toujours besoin de transports et nous allons essayer d'évoquer les futurs transports, éventuellement ce qu'il y a dans les cartons actuellement et qu'est-ce que l'on peut imaginer pour aller beaucoup, beaucoup plus loin que tout cela dans les transports plus tard. Donc les nouveaux modes de transport. Pour parler de ceci, nous avons avec nous Alain Buswiewald, je l'ai bien dit, qui est directeur général de la TAN, le transport de l'agglomération nantaise. Nous avons Gilles Francescano, qui est un illustrateur qui a fait de nombreuses couvertures. Nous, à ActuSF, on le remercie pour Sylvie Lenné, voilà, qui a fait un roman graphique avec Pierre Bottero aussi. Et nous avons Peter Watts, qui est un écrivain canadien, novelliste, romancier et aussi biologiste marin. Alors, messieurs, je pense que le mieux serait de commencer. On va essayer d'avancer dans le futur. Donc, on va essayer de partir. Donc nous allons peut-être commencer par parler de l'avenir proche, de ce qui se dessine déjà dans les cartons, de ce que l'on a de disponible. Et puisque nous avons... Alain Buswiewald avec nous, je voudrais lui passer un peu la parole. Alors, les transports en commun, en particulier bon, sur Nantes, puisque c'est ce que vous connaissez le mieux, mais...
je crois que ça ne sera pas ça. Oui, c'est bon, c'est... Je crois que ce ne sera pas tout à fait ce qu'on voit sur l'écran, mais avant de parler du futur, moi je voulais faire un tout petit retour en arrière, parce qu'effectivement... si on regarde ce qu'on imaginait déjà dans les années 70, c'est ce qu'on a effectivement réalisé. Donc c'est une façon de se projeter, mais c'est de se projeter rétrospectivement. Dans les années 70, il y a eu aussi toute une série de réflexions sur des transports du futur, avec des tas d'imaginations, de systèmes automatisés, de mini-cabines, enfin de tout un système extrêmement sophistiqué qui avait comme ambition de faire du transport public une somme du transport individuel. Donc on montait dans des petites cabines, on programmait sa destination, et puis on se retrouvait avec des trains de cabine, et puis après on allait à sa destination. En 30 ans, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces rêves des années 70, il en reste quelques séquelles, hein, j'allais dire, c'est les métros automatiques. Hein, le Val est une survivance de ce qu'étaient les idées des années 70. Et puis il y a eu surtout, finalement, le retour du tramway, donc qui est quand même pas une idée neuve, hein, qui... puisque le tramway, ça existe depuis la fin du 19e siècle. Donc le retour du tramway au 20e siècle, ça montre que le futur, c'est difficile à définir, puisque personne n'aurait imaginé que l'on revienne au tramway dans les années 2000, après l'avoir abandonné dans les années 1950. Donc c'est très difficile de se projeter sur le futur, si ce n'est de dire qu'aujourd'hui, quand on réfléchit au transport du futur, on s'interroge sur deux problématiques qui sont... à la base de toutes les réflexions d'aujourd'hui, c'est un, évidemment, le problème de l'énergie. C'est demain, quelles seront les énergies qui, effectivement, alimenteront ces transports du futur. Alors, le panorama aujourd'hui, vous le savez, on est passé du gazole au gaz naturel, et puis on réfléchit à la traction électrique qui fait rêver tout le monde, en passant par des systèmes hybrides, et puis des piles à combustible qu'on commence à expérimenter dans un certain nombre de réseaux d'Europe aujourd'hui. Et puis l'autre souci que l'on a, c'est effectivement tout ce qui est le rapport de la conduite, c'est-à-dire du coût de ces transports ramené au nombre de personnes transportées. Donc ça va jusqu'à l'automatisation, je rappelais tout à l'heure, hein, donc un système comme le Val qui est entièrement automatique et qui a priori était censé se distinguer par le fait qu'il n'y avait plus de coût de fonctionnement lié directement à la conduite, à des systèmes où on essaye de faire la plus grande capacité possible avec une seule personne pour conduire. Donc les deux tendances aujourd'hui, c'est une recherche en matière énergétique, avec des aboutissements qui sont aujourd'hui pas programmés. Avant, quand on pense à la pile à combustible, ça fait 10 ans qu'on nous dit que c'est dans les 20 ans qui viennent, et on y est toujours, donc je pense qu'avant que ce soit un mode opérationnel, on va encore attendre un petit peu. Et puis les systèmes de plus en plus capacitaires, justement pour essayer de réduire les coûts de fonctionnement, c'est extrêmement terre à terre, mon propos.
Non, mais c'est extrêmement intéressant, parce que je pense que vous venez de balayer toute une large palette de la problématique que nous avons essayé de travailler pendant cette petite heure. Donc, ce que l'on voit bien, c'est que déjà, il y a deux choses différentes. Il y a le transport en commun et le transport personnel, même si le transport personnel est en commun, que ce soit des tapis roulants ou que ce soit des cabines individuelles. Mais il y a vraiment le transport en commun et le transport individuel, on va dire. Et puis, là, vous êtes un petit peu focalisé, bon, c'est un peu normal, sur la partie ville. Mais en fait, si on regarde l'évolution de la population sur les dernières années, on voit qu'il y a de plus en plus des agglomérations avec une espèce de no man's land au milieu, que les gens traversent le plus vite possible. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux types de transports. Il y a un transport rapide à longue distance et quelque chose de proximité, justement, dans ce dont vous venez de parler, effectivement. Alors, vous qui venez de très loin, monsieur Watts, les transports à longue distance, à l'heure actuelle, comment est-ce que vous avez des idées?
Hello? Okay, how's this one? All right.
Oui. En termes des rêves des années 60, j'ai une nostalgie avec l'avenir, avec l'arrivée des superconducteurs à température ambiante. On va peut-être avoir une sorte de transport de masse, donc et c'est un petit peu nostalgique, mais bon, les 10 années 60, tout ça. Mais en termes de réduction de coûts, ça, on en a parlé. Et c'est quelque chose qui est une question d'importance capitale, puisque on a de moins en moins de ressources naturelles, et même si on développe d'autres sources d'énergie, il y aura une sorte d'épuisement à un moment donné, où il y aura des gaz d'échappement, où il y aura quelque chose. Mais en termes de réduction de coûts, il faut peut-être regarder quelque chose qui implique le transport de la conscience, plutôt que la viande physique, en quelque sorte. Et c'est quelque chose de beaucoup plus simple qu'on aurait prévu. Il y a eu des études où on peut mettre des caméras dans les yeux d'un mannequin, et on peut mettre des microphones dans les oreilles, et puis et le sentiment subjectif qu'on a de lieu change, et puis vous êtes à l'intérieur du mannequin. Et l'illusion est tellement forte que vous pouvez serrer la main du mannequin. Et vous vous voyez en train de serrer la main, en quelque sorte. Et l'illusion est complète. Vous avez toujours l'impression d'être à l'intérieur du mannequin. Et vous vous regardez, donc vous avez l'impression d'être hors de votre corps. Et en supposant que la loi de Moore, avec le feedback haptique, avec d'autres formes d'électronique, là, ce n'est pas impossible de penser que d'ici 10-20 ans, on pourra peut-être sentir physiquement avec des choses tout simples. Hein, tout simple. On ne parle pas de cristal lithium, etc. On parle tout simplement de tromper le cerveau pour que le cerveau pense qu'il est ailleurs que là où il est. Et donc, vous pouvez déplacer votre sens de présence quelque part. Et vous pouvez avoir l'impression d'être ailleurs, et ça ne coûte pas plus cher qu'un lien Internet. Et il y a l'idée de transfert de corps. Donc là, vous devez taper contre quelqu'un, mais vous sentez ce qu'eux ils ressentent. Donc voilà. Mais en fait, vous tapez vous-même en quelque sorte. Mais ça, c'est un petit aspect, une ramification science-fiction. Mais à la base de transférer la conscience. Là, effectivement, on peut faire baisser le coût, d'ailleurs.
Donc, finalement, l'avenir du transport, ce serait de ne plus être transporté, finalement, de ne plus se déplacer, et de ne se déplacer que par des moyens. Ce qui est déjà employé dans beaucoup de grandes sociétés, je ne sais pas si ça vous arrive, M. Bosifal, d'avoir des téléconférences, des vidéoconférences avec vos partenaires ou vos collaborateurs, mais c'est déjà quelque chose qui est largement utilisé dans les grandes industries, dans les grandes entreprises qui sont maintenant mondiales. Donc, là, on était parti très loin. Est-ce qu'on pourrait un petit peu se rapprocher? Je ne sais pas si...
Moi, ce que m'inspirent les propos de Peter Walsh, là, il parlait de la nostalgie des années 60. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a du mal quand même à se projeter sur effectivement ce que sera le transport du futur, comme le disait Alain aussi au début de la conversation. Parce que dans les années, enfin, j'analyse moi un petit peu les designers qui ont travaillé par exemple sur que ce soit la fonction ou la forme en fait du véhicule collectif ou individuel. J'ai l'impression que depuis, je dirais, le début de l'ère automobile et de l'ère du déplacement comme ça à grande vitesse, c'était la notion aussi de plaisir qui prévalait, alors qu'aujourd'hui, les réflexions sont quand même liées entièrement quasiment qu'à des notions de contraintes, en fait. C'est trouver le moyen d'utiliser moins d'énergie, trouver le moyen de, par exemple, de réduire les accidents, déplacer plus de population en peu de temps ou avec moins de coûts. Et donc, je trouve que la notion de plaisir est quand même un petit peu loin que ce que l'on percevait à l'époque dans des images, par exemple, qu'on a vues à la Cité aussi en 2006 ou avec les expositions de l'illustrateur Ray DeBow, par exemple, où on sentait qu'il y avait une espèce de liberté visionnaire qui n'était lié à aucune contrainte. Et ça, je crois que j'ai la même nostalgie que Peter Watts là-dessus, quoi, sur cette période-là.
Oui, dans les années 60, on était persuadé qu'en l'an 2000, tout le monde aurait des voitures volantes et qu'on se déplacerait tous dans les airs. Donc effectivement, le monde n'est pas tout à fait ce que l'on en a rêvé à l'heure actuelle. Mais puisque nous avons ici la chance d'avoir quelqu'un qui, lui, connaît l'avenir, au moins sur les quelques années qui viennent... Donc,
Non, je crois qu'il y a des choses qui ont changé quand même. Pour revenir au rêve des années 60 avec tous les dessins, effectivement, un petit peu futuristes, je crois que principalement ce qui a changé dans notre monde aussi, c'est la relation finalement au déplacement. C'est-à-dire de quelque chose qui était un tout petit peu quelque chose de nouveau, parce que la liberté de se déplacer, quand on se reprojette il y a 50 ans, c'était quelque chose qui n'était pas donné à tout le monde. Donc, c'était une forme de liberté conquise. Aujourd'hui, j'allais dire, ça fait partie, enfin, dans notre univers occidental, j'allais dire, de quelque chose qui est complètement acquis. Et même aujourd'hui, la tendance, c'est de revenir plutôt à des choses plus utilitaires et moins rêveuses, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une partie de la population qui continue à rêver là-dessus, mais le moyen de déplacement, aujourd'hui, ça ne fait plus énormément rêver, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on le voit changer dans, par exemple, la relation à l'automobile. Le fait qu'aujourd'hui on puisse ne plus être possesseur d'une automobile, de partager sa voiture, toutes les expériences dans les grandes villes d'Europe de voitures partagées, c'est bien aussi la traduction que sa relation au mode de transport n'est pas celle qu'on avait dans les années 50. Alors c'est arrivé effectivement parce qu'il y a ces contraintes d'environnement, de place dans les villes, d'énergie, etc. Mais c'est aussi lié finalement, je pense, à une évolution de la relation au déplacement. Il y a d'autres façons, et Peter Watts le disait très bien, il y a d'autres façons de se déplacer aujourd'hui. Donc finalement, le déplacement au sens physique de se déplacer en termes de personnes, il peut avoir perdu beaucoup de sa valeur ludique ou agréable.
Tout à fait, mais si l'on reste dans un territoire donné, donc le terme d'une ville, d'une agglomération, en se limitant à ce territoire-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, ce que vous avez dans les cartons, j'irai un peu sur les années qui viennent, quoi.
Moi, je vais vous dire qu'on a d'abord un paradoxe extraordinaire, c'est que on met maintenant plus de temps pour faire le trajet terminal, le trajet de proximité entre une gare, un aéroport et son domicile qu'on met tant de trajets pour faire New York-Paris ou Paris-Nantes en TGV. Donc le paradoxe aujourd'hui, c'est que les temps de déplacement pour les grandes distances que vous évoquiez tout à l'heure, ils sont extrêmement réduits, ils continuent à se réduire. Et par contre, les temps de proximité, eux, continuent d'augmenter. Donc une des questions, c'est comment on réduit ces temps de proximité.
Alors, c'est un peu votre métier, hein.
C'est un peu mon métier, oui, encore qu'il y a une des données fondamentales de la réduction du temps de proximité qui n'est pas directement un problème de transport, qui est plutôt un problème d'urbanisme. Et donc, dès qu'on touche au transport, on revient à la question de départ, c'est-à-dire quel urbanisme veut-on, quelle ville veut-on pour qu'effectivement on ait des déplacements de proximité qui soient réduits à des temps courts, à des modes de transport beaucoup plus doux que le recours à l'automobile. Mais là, on est sur des échelles de temps pour changer une ville, il faut 15, 20 ans, 30 ans.
Et nous avons, nous, aujourd'hui, autour de cette table, tout le temps. Donc,
ah bah si, on a tout le temps. On va remettre le doigt dans le fameux dilemme entre urbanisme et transport. Entre
la réinventer la ville.
Voilà, réinventer une ville où effectivement les déplacements ne seraient plus conçus de la même façon. Une ville beaucoup plus écologique, entre guillemets. Les écoquartiers sont des exemples de recherche dans ce domaine-là pour que les déplacements soient réduits à leur plus simple expression, c'est-à-dire les déplacements les plus courts possibles, si possible à pied, qui après tout est le mode de déplacement. C'est aussi un des paradoxes de ce temps, c'est-à-dire qu'on s'est à la fois projeté sur la conquête de l'univers et en même temps, on essaye de reconquérir finalement la distance de proximité. Donc on a cette double tendance d'aller le plus loin possible et en même temps d'essayer de gérer ce qui se passe à 500 mètres de chez nous.
Alors, donc, vous ne voulez pas nous dire ce que vous avez prévu de faire pour les transports nantais dans les 10 ans qui viennent
Les transports nantais dans les 20 ans qui viennent, ils vont ressembler un tout petit peu à ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire... Sans doute, toujours la même chose, un changement sans doute de l'énergie utilisée pour les déplacements, encore qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, les recherches en matière de transport électrique, avant qu'on ait des engins, je ne parle pas du tramway, mais d'engins totalement indépendants qui roulent à l'énergie électrique ou avec des piles à combustible, c'est un projet qui existe. Mais qui aujourd'hui n'est pas dans des phases opérationnelles. C'est-à-dire qu'il y a des tels coûts de fonctionnement que ce n'est pas imaginable de dire que dans 10 ans, on aura ça dans nos modes de transport. Et puis le reste, c'est effectivement la recherche de la plus grande capacité de façon à réduire les coûts de fonctionnement. Je suis très terre-à-terre. Moi, je ne déplace pas les cerveaux parce que c'est un peu difficile. Mais j'essaie de... Parce qu'il y a une dimension économique dans tout ce qui est le champ du déplacement, évidemment. Et donc, un des problèmes, c'est de réduire le coût économique de ces affaires-là. Donc il n'y a pas de révolution à très court terme d'imaginer. Hein. Toutes les recherches en matière de carburant aujourd'hui se terminent par... et c'est quoi les expérimentations d'aujourd'hui? C'est d'utiliser des hybrides qui font à la fois électricité et gazole. C'est de rechercher, je dis, la pile à combustible. Il y a une dizaine de bus dans le monde qui tournent avec des piles à combustible. Avec ça, on ne fait pas une évolution visible pour tout le monde dans les 10 ans qui viennent.
Alors, Peter Watts... Vous êtes, en plus d'être auteur, vous êtes biologiste marin. Donc la biologie a été pensée pendant un certain temps comme étant l'énergie du futur. Finalement, les biocarburants, tout cela, ça a l'air d'être un petit peu dépassé. On passe à autre chose. Moi, j'ai entendu parler du plancton comme futur carburant.
Oui. C'est une sorte d'algue bleu-vert, en fait. C'est une sorte de panacée qui était dans le temps on parlait de spiruline, donc des algues monocellulaires. C'est quelque chose qui est une sorte de baguette magique, mais bon, je ne suis pas expert là-dedans en fait. Moi, c'est pour les mammifères marins, en fait. Donc, pour les planctons, en fait, c'est extrêmement loin, même si c'est dans le même domaine global. Mais bon, mais si j'ai bien compris, nous sommes vraiment prêts à voir une sorte d'algue monocellulaire qui, théoriquement, a la capacité de remplacer l'infrastructure à base de pétrole. Mais ce n'est pas technique. Le problème, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique, une sorte d'inertie de garder le système actuel. Il y a beaucoup d'argent investi à nier l'existence des changements climatiques. Et je pense que si on pouvait contourner la résistance qui existe de la part industrielle, où on veut garder les choses telles quelles, là, je pense qu'on pourrait faire disparaître ces problèmes. L'innovation technique est suffisante dans le royaume biologique. Là, il y a Craig Venter, par exemple, qui crée de la vie synthétique où on construit un corps cellulaire, un peu comme un couteau suisse, et on met les gènes qu'on veut dedans. Et il y a son système d'exploitation génétique, et on peut construire ce qu'on veut. Et donc, il y a un potentiel énorme si seulement l'inertie de la société nous permettrait de se lâcher et puis vraiment faire des expériences pour de vrai.
Une source d'énergie potentielle dans la biologie, pas simplement dans l'électricité, le nucléaire, etc.
Juste un petit commentaire pour joindre un petit peu la réflexion de Peter concernant l'inertie d'une société humaine par rapport à peut-être l'avancée des progrès, disons, au niveau des recherches. Ça me fait penser, de l'extérieur, hein, avant de me faire lyncher par les Nantais présents dans la salle, je voyais cette semaine un article concernant les embouteillages à Nantes. Et je pense que c'est un sujet sensible. J'avais vraiment l'impression qu'on avait affaire à deux discours, en fait, à deux conceptions d'un même urbanisme, à savoir effectivement celui qui va le subir, entre guillemets, par ses déplacements obligatoires, et quelqu'un d'un peu plus visionnaire qui va modifier une ville en un si peu petit laps de temps, parce qu'Alain dit c'est 10-15 ans en disant que c'était grand, mais ça paraît tellement dérisoire à la dimension d'une ville, d'une société humaine. Quand moi je vois Nantes de l'extérieur, je me dis que Nantes est. C'est une des villes. Bon, je n'ai pas vu toutes les villes, mais j'ai l'impression qu'il y a un réseau urbain de transport collectif énorme qui fait que, effectivement, les embouteillages, on peut en parler, mais c'est tellement dérisoire par rapport à l'apport bénéfique de l'effort fait sur le transport en commun. Ça, c'est juste un petit commentaire qui rebondit sur ce que dit Peter entre le retard, disons, d'une mentalité et les avancées d'une technologie qui a tout fait pour faciliter les choses, mais peut-être un tout petit peu trop en avance, quoi. Dans 10-15 ans, je pense que l'article que j'ai lu cette semaine n'aurait même pas été publié.
Donc, ce que je retiens de ce qui vient d'être dit, donc, c'est que donc une nouvelle énergie, des transports, revoir la ville, c'est un petit peu ce qu'on disait. Mais là, on ne serait-ce pas plutôt par le transport en commun que viendrait l'avenir des transports? Parce que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais si on veut vraiment clarifier les choses, le transport individuel, donc un peu réduit à la marche, ce qu'on disait.
Non, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Je crois qu'on a dépassé le débat en disant c'est l'un contre l'autre. Je crois que le débat, il est plutôt sur la bonne place de chacun de ces modes. Moi, je suis dans un univers plus court que celui qu'on évoque là, en disant effectivement. Il y a une inertie très forte dans ces domaines-là, c'est vrai, mais en même temps, il y a, je veux dire, les transports, c'est aussi quelque chose qui est géré à l'échelle d'une collectivité, donc à un rythme qui est aussi un rythme politique. Hein, donc il y a ce rythme-là aussi qui intervient pour parler de ces problèmes d'inertie. Non, moi je crois qu'il n'y a pas de, il y aura évidemment pas de solution unique, globale, etc. Je ne crois pas à ces formules-là. Je crois surtout qu'il y a une recherche sur du bon moyen de transport pour le bon déplacement. Et donc, tout ce qui peut être fait, enfin, le meilleur moyen de déplacement qu'on ait jamais inventé, c'est quand même la marche à pied. Je suis à preuve du contraire. Je trouve que c'est celui qui est à la fois le plus sain, le plus raisonné, le moins consommateur d'énergie. Bon, par contre, effectivement, il se heurte au fait qu'avec la marche à pied, on a un univers de destination qui est un peu court. Donc, je pense que donc, la bonne solution, c'est une réponse où on trouve, pour un certain nombre de types de déplacements, le bon moyen, le mieux adapté par rapport à la problématique qui est à la fois. Le moindre d'énergie consommée possible, mais aussi le meilleur rapport entre le temps et la distance. Donc on aura toujours, dans un avenir de 20-30 ans, je n'arrive pas à imaginer une société dans laquelle il n'y aura pas encore des moyens individuels ou des moyens ferrés de longue distance, et puis quelque chose d'un petit peu plus pensé au niveau local pour utiliser des choses un peu plus intelligentes comme la marche à pied ou le vélo assisté, et la voiture partagée, parce que je pense que là aussi, c'est l'encombrement, si chacun possède sa voiture, et encore aujourd'hui, nous, dans nos sociétés européennes, on en a déjà beaucoup, mais quand demain, tous les Chinois et tous les Indiens auront le même nombre de voitures que nous pour 1000 habitants, je ne sais pas ce qu'on fera de tous ces véhicules. Donc il y a bien aussi quelque chose à dépasser entre la possession et la façon de se déplacer. Donc il n'y aura pas de solution unique, ça sera forcément un mélange de toute une série de solutions techniques, parce que les natures des déplacements ne se prêtent pas forcément à la même réponse.
À moins que tu arrives à convaincre les collègues de Peter donc de travailler sur la mutation et donc de multiplier les jambes, à ce moment-là, le problème est résolu. On reste piéton, mais on va plus vite.
Oui, c'est une solution que je n'avais pas envisagée, mais je pense qu'elle est pour un peu plus tard. Hein. Et je ne suis pas sûr que tout le monde la souhaite non plus, vraiment.
Et là jusqu'à présent, ça fait une demi-heure que nous parlons, et nous parlons que de voyages, que de trajets subis. De contraintes, finalement, se déplacer est une contrainte. Mais le voyage en lui-même, ça n'a pas d'intérêt simplement le voyage pour le voyage.
Non, avec un bon jeu immersif, tu n'as pas besoin de te déplacer.
D'accord, là aussi on est pareil, on est comme sur les transports, on parlait Peter Watts tout à l'heure. Le bon voyage, c'est le voyage où on ne voyage pas. Un voyage intérieur.
Bah disons, c'est un voyage de l'esprit avant tout, donc s'il n'est pas subi, là on parlait par exemple des énergies, des problèmes comme ça, c'est vrai qu'il faut remettre aussi en question même le voyage plaisir. Si on n'a pas assez d'énergie, ne serait-ce que pour le voyage contrainte, pourquoi permettre encore le voyage plaisir ? C'est aussi une question qui, de toute façon, se posera un jour. Pas forcément à nos petits-enfants, mais bien plus tard. Mais elle se posera un jour obligatoirement. Donc à ce moment-là, le virtuel est un palliatif absolument nécessaire et bienvenu. Même si aujourd'hui, on freine un peu, on regarde ça d'un œil sceptique, les parents surtout. Mais allez-y, achetez des jeux à vos enfants.
Je suis d'accord avec le tout, globalement. Mais je crois qu'il y aura toujours au moins un marché de niche pour voyage, monde réel. Et la rencontre entre les deux. Donc comme il y a un marché pour des pièces jouées en direct ou des pièces à la radio, même c'était repris un petit peu par la télévision. Mais c'est pas ça le problème. La vraie question, c'est le voyage, le transport comme nécessité. Parce que nous devons manger. Et j'adore l'idée d'un retour à l'infrastructure piétonne, en fait. Des espèces de nœuds, de noyaux, où on peut tout faire à la marche. Mais si on n'a plus de gens qui voyagent sur des longues distances, il faut ramener les services aux gens. Et il faudra de plus en plus de points de distribution pour les services vitaux comme l'alimentation, comme les réparations techniques, etc. et le carburant. Donc beaucoup plus que maintenant. Donc, actuellement, vous avez, dans la plupart du monde développé, vous avez des zones centrales où vous devez aller acheter votre meuble ou acheter quoi que ce soit. Moi, je m'intéresserais à voir les algorithmes en termes d'efficacité, en termes d'énergie. Est-ce que c'est plus efficace d'emmener les gens vers les ressources ou d'emmener les ressources à une plus petite échelle vers les gens? Je ne sais pas si vous êtes au courant d'études qui ont été faites sur le compromis optimal entre ces deux démarches.
Mais je comprends bien cette problématique parce que C'est exactement ça, la recherche de maîtrise et d'équilibre. Hein. C'est effectivement répondre à la fois aux besoins et aux services en essayant d'ajouter cette dimension qui est à la fois une dimension d'écologie et d'économie de l'énergie. Hein. C'est les deux dimensions. C'est aussi le retour de culture de proximité. Enfin, quand on parle d'éco-quartier, ça ne se limite pas simplement à dire des quartiers dans lesquels il n'y a pas de voitures ou moins de voitures. C'est aussi des quartiers dans lesquels on peut trouver, y compris un mélange, une mixité avec des productions alimentaires, des choses comme ça. Hein. Donc on peut aller très très loin dans ce domaine-là. Je ne suis pas sûr qu'on soit encore complètement prêt à pousser ça à une très grande échelle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les problèmes d'inertie qu'on évoquait, parce que c'est aller aujourd'hui un tout petit peu contre une pratique pratique. En même temps, je disais 20-30 ans, c'est vrai que ce n'est pas long à l'échelle du monde, 20-30 ans, c'est même que dalle. Mais en même temps, 20-30 ans, c'est compliqué à l'échelle qui est de la décision réelle. Les décisions réelles, elles ne se prennent pas. 20-30 ans, c'est très très loin. Donc elles se prennent souvent à l'échelle de 5-10 ans. Donc il y a un décalage toujours, je trouve, entre les modes de gouvernance, hein, pour parler comme ça, et puis ce qui permettrait de faire changer réellement les systèmes. Alors j'ai pas de réponse à cette question entre quelle est la bonne gouvernance par rapport à des évolutions qu'on voudrait sur le plus long terme.
Et là, on ne parle que pour une problématique citadine. Parce qu'en milieu rural, le problème restera entier encore de longues années, je pense. Parce que l'impact, je dirais, carbone sur un déplacement en milieu rural, moi, de mon point de vue aujourd'hui, mon tout petit point de vue, me paraît quasiment insoluble. Parce que les distances étant, la disparité des lieux d'habitation étant, j'ai l'impression qu'effectivement, la seule solution est de ramener tout le monde en agglomération et faire en sorte que cette agglomération soit, comme le dit aussi Peter, la plus disponible à dispenser les produits vitaux à moindre distance. Et donc, de là à encourager la désertification rurale, je ne le dis pas, mais ça peut être une solution à très long terme.
Surtout que, bon, nous avons parlé un petit peu d'énergie, des différents types d'énergie, d'énergie future, donc de l'électricité, de la bio, mais nos ancêtres, hein, autrefois, utilisaient d'autres techniques qui étaient la force animale, la force du vent pour les bateaux, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses que l'on peut imaginer, qu'on peut revoir, repenser plus tard? On voit qu'il y a des nouveaux voiliers, les nouveaux bateaux de croisière portent des voiles. Est-ce qu'il pourrait y avoir un retour là-dessus aussi?
Je suis intrigué par ces nouvelles conceptions pour les paquebots à voile. Là. Donc, vous avez ce système de voile. En fait, c'est une sorte de d'hélice exagérée en quelque sorte. Mais je veux voir le résultat, je veux voir l'impact de ça. Donc s'il y avait effectivement une sorte de production d'énergie, de production énergétique écologique, ce serait le vent. Mais on a vu il y a quelques années, non seulement les éoliennes en fait détruisent les oiseaux, mais d'un point de vue du microclimat, si on a assez d'éoliennes dans une zone assez petite pour construire, pour créer, pardon, de l'énergie, vous changez le microclimat après. Vous changez la circulation de l'air. Et ça a un impact sur les températures du sol au niveau, au plus petit niveau. Donc ça peut avoir un impact sur l'agriculture. Donc il y a peu d'impact direct en termes de l'écologie, mais moins peut-être que les algues unicellulaires dont j'ai parlé, qu'on peut brûler à la place des carburants fossiles. Mais oui, ce sont des choses fascinantes, et j'ai hâte de voir un magazine qui a une illustration en couverture de ça. Donc des avions, là, voilà, un avion à puissance solaire, quoi, c'est avec l'énergie solaire. Mais il y a toujours un petit truc négatif qui vous mord le cul après, quoi. Donc, ce sont des choses, c'est ça qui limite. Mais j'aimerais voir ça avant qu'après, plutôt que de répéter les erreurs du passé. Ça veut dire qu'on investit massivement dans un système qui a tellement de désavantages. Et une fois qu'on se rend compte des désavantages, là, on est trop impliqué, on a trop investi.
Non, je voulais juste dire, on a vu le retour du cheval dans certaines communes pour ramasser les ordures ou transporter les enfants à l'école. Donc, tout l'univers nous est grand ouvert pour le retour du cheval comme moyen de transport dans nos villes et nos campagnes. Pourquoi pas ? Là aussi, sur un champ bien délimité, tout ça, c'est des niches. Hein. C'est pas une solution globale. J'imagine pas de revenir à la civilisation du cheval, mais sur des micros, sur des niches, pourquoi pas? C'est aussi des réponses. Je pense qu'il faut laisser la place à toute une série d'imaginations, d'imaginaires. Il y a des bonnes réponses pour des problèmes petits, concrets, et on arrive à trouver des solutions. C'est pas forcément pour autant qu'il faut l'imaginer, décupler et multiplier à l'échelle du monde. Sinon, on retombe dans les mêmes erreurs qu'on a commises.
Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, la réponse et le futur est multiforme.
Oui, moi, je crois pas à la réponse unique qu'on multiplierait comme ça à l'échelle de notre planète. C'est bien l'échec des modèles dans lesquels on est aujourd'hui, où on voudrait transférer l'ensemble de la façon dont nous, on a vécu cette révolution de la mobilité, et on n'imagine pas autre chose comme modèle de développement pour l'ensemble des pays du monde. Forcément, ça conduit à une impasse. Et en même temps, on n'imagine pas dire à ces personnes-là, ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Elles ont aussi envie de faire ces erreurs. C'est ça qui est terrible. On ne peut pas les empêcher de voir faire des erreurs. Je voyais comment, aujourd'hui, les vieux réseaux de tramway de ces villes d'Europe, que quand on leur explique, mais gardez vos réseaux de tramway, ils rêvent tous de transformer tout ça en un monde automobile. Et quelle raison avons-nous, nous, aujourd'hui, pour dire, ne faites pas nos erreurs, alors qu'ils nous répondent facilement, ben, vous les avez commises, laissez-nous les faire aussi. Hein. Donc chacun va recommettre certaines erreurs. Donc je ne crois pas à des modèles comme ça, et je crois qu'il faudrait plus de subsidiarité dans ces choses, un tout petit peu plus d'imagination au niveau local.
La façon dont nous pouvons les empêcher de faire les mêmes erreurs, c'est de leur fournir une meilleure solution dès le départ, en fait. Et dans bon nombre de parties d'Afrique, par exemple, les infrastructures de communication ont été mises en place. Et elles ont donc pas pris du tout le chemin du fil de cuivre, par exemple, et sont exposés à moins de problèmes environnement parce qu'il n'y a pas de câble du tout qui traverse leur paysage. Et si on doit avoir quelque chose qui soit moins dommageable pour l'environnement et qui soit plus facile à adopter, il n'y a pas de raison pour faire les mêmes erreurs et adopter ces technologies si on leur offre quelque chose pour de meilleur pour remplacer.
Réponse, hein. Donnons-leur la boîte à outils, j'allais dire, et puis laissez-leur construire le modèle qu'ils veulent. C'est un peu ça aussi notre façon de vouloir dupliquer comme ça à l'infini notre façon de voir le monde et de le construire. On est très loin des transports du futur, mais...
Disons-moi, j'espère pouvoir croire en quelque chose d'improbable en même temps, parce que là, on est sur des pistes, disons, de recherche avancée qui se basent sur des modèles existants, forcément, comme tu le dis, sur des sociétés que l'on a déjà éprouvées. Mais on a quand même pu voir, par exemple, bon, sur l'exemple des écrivains de science-fiction, par exemple, ayant exploité tous les domaines possibles depuis les années 30 dans les textes, et pas un seul n'avait vu l'ordinateur individuel. Donc à ce moment-là, j'ai quand même encore bon espoir en cette entre guillemets découverte improbable dont personne n'a vu les prémices et qui pourrait amener une solution un peu plus pas globale. Je suis pas naïf à ce point, mais en tous les cas, moins local que ce que l'on voit actuellement. Actuellement, on ne parle que de solutions locales, comme le titre, solutions locales pour problèmes globaux. Mais au sein d'une ville, disons, c'est plus important que simplement local. Quoi, en fait, ça ne concerne pas que quelques entités.
Alors d'accord, partons un peu plus loin. Alors, éloignons-nous un peu. Nous sommes restés là jusqu'à présent dans les 15-20 prochaines années. Mais si l'on va plus loin, alors qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut voir comme transport? Alors il y a les non-transports, les transports où on ne se transporte pas. On l'a déjà vu avec la partie virtuelle. On peut imaginer la télétransportation plus tard, un jour peut-être. Sachant que, si j'ai bien compris, il y a déjà des expériences qui ont prouvé qu'on pouvait transporter l'état d'un atome vers un autre atome.
Oui, on en est qu'aux prémices. On ne peut pas téléporter quelque chose. Hein. On ne téléporte pas la matière encore. Ce n'est pas une. On ne regarde pas là Star Trek. Hein. C'est pas Star Trek hein, où on essaye de téléporter un objet d'un endroit à un autre. Non, non. Ce que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a en fait, on prend les spécificités quantiques d'un atome, hein, et ils ont téléporté déjà des molécules complètes. Donc on prend les spécificités quantiques d'un atome, d'une molécule, et on l'applique sur une autre. Hein. Donc ce que l'on fait en fait, c'est pas transférer, transporter quelque chose, on crée un double, à un point où en fait, à l'autre bout de la chaîne en fait. Et là, à cet autre moment, là, notre discussion, je me demande s'il n'y a pas là un lien avec une façon futuriste d'un système de proportion. En d'autres termes, et c'est dans un de mes livres, je joue avec cette idée de l'antimatière, en fait. Hein. Mais le problème avec l'antimatière, c'est qu'elle est extrêmement rare dans cette partie de l'univers et qu'elle est très difficile à synthétiser. Pour ce faire, il nous faut une quantité énorme d'énergie et, en d'autres termes, il nous faut quelque chose qui soit beaucoup plus proche du Soleil. Un vaisseau spatial devra donc avoir une utilité importante et ne pourra pas s'échapper vraiment très très loin du Soleil si on pense à utiliser pour avoir une station, par exemple, pour développer cette technologie. Elle ne pourra pas être loin du Soleil. Et donc, pour téléporter en fait la spécificité quantique, bon, ça sera extrêmement cher et il faudra peut-être refigurer toutes les choses et ça peut être moins efficace d'un point de vue combustible, carburant. Mais bon, voilà, si vous lisez les articles, il y a beaucoup de questions qui se posent et on. Mais bon, d'après ce que je comprends, l'utilisation de la téléportation que l'on peut avoir dans un avenir proche va être beaucoup plus utile comme un moyen de transmettre l'information plutôt qu'un moyen d'aller d'un point A à un point B. Mais bon, si on peut transférer des informations complexes, il n'y aura peut-être plus besoin de voyager d'un point A à un point B.
Restons dans le transport. Donc, si j'ai bien compris, la téléportation, ce n'est pas encore ça, et ce serait peut-être utilisé pour d'autres actions, d'autres choses que le transport en lui-même. Alors, est-ce que... Voilà, j'ouvre la question, tout le monde peut répondre. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour dans un siècle comme moyen de transport? À quoi ça pourrait ressembler?
On peut dire que les choses vont s'empirer, en fait, dans le siècle à venir. Ça ne va pas être la question de savoir de ce que l'on peut faire pour aller d'un point A à un point B, mais je peux voir, en fait... notre planète ressemblant en fait à un morceau de cookies, en fait, et pour une raison ou pour une autre. Et c'est quelque chose qui viendrait donc de ces parties sombres de l'Afrique. Vous voyez, bon, il n'y a pas vraiment de gros problèmes aujourd'hui. Parce que donc ces maladies donc tuent les gens si rapidement qu'elles n'ont pas le temps de se déplacer. Mais bon, vous voyez, il semble que pendant un mois, on n'entend pas parler d'une nouvelle maladie virale ou autre, ou d'espèces invasives qui peuvent être un problème et qui ont, elles, là, qui ont causé des problèmes en Amérique du Nord avec un tas de maladies exotiques ou autres et qui rentrent en concurrence avec d'autres maladies plus locales et des écosystèmes du Moyen-Orient et autres. Enfin, bon, voilà. Mais bon, ce que je peux voir, en fait, c'est que le monde soit coupé en morceaux parce qu'on n'a pas les moyens techniques d'aller d'un point A à un point B, mais parce qu'on ne pourrait pas protéger notre partie du monde des maladies ou d'espèces invasives. Et donc, il sera peut-être plus difficile de passer les filtres de sécurité. C'est la seule réponse que j'ai à offrir aujourd'hui.
Si j'ai bien compris, disons, si les épidémies passent cette barrière, disons, de protection, le problème serait résolu parce qu'il n'y aurait plus personne à déplacer, en fait, c'est ça.
Yeah. Ah, oui. Et au sein de votre zone, où là où il y a une épidémie, oui, les autres, donc, bon, c'est une attitude auto-centrée, là, en fait, hein, tout simplement, hein, c'est tout.
Mis à part les épidémies, qu'est-ce que vous voyez sur le transport dans un siècle? Vous avez des idées?
Non, à 100 ans, l'ingénieur n'a pas d'idées. Hein. Il faut laisser l'imagination faire. Mais je pense que, moi, honnêtement, je pense que dans 100 ans, ça ne sera pas très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Si ce n'est que ce sera plus calibré en matière énergétique, ça sera moins une ressource, enfin une utilisation régulière, parce qu'on aura trouvé d'autres façons. Et une façon de résoudre les problèmes de se déplacer, c'est de ne pas se déplacer. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mais il restera forcément une nécessité, parce qu'un monde sans déplacement, ça serait aussi assez terrible, hein, de vivre en autarcie et d'avoir le monde qui vient chez soi. C'est quand même sympa d'aller aussi à la rencontre des gens. Donc je pense que ça ne sera pas très différent. Après tout, il y a 100 ans, on rêvait aussi beaucoup de choses. Et le monde d'il y a 100 ans, celui d'aujourd'hui, il n'est pas extrêmement différent. Hein. En 1910, on a des images des villes qui ressemblent un peu à nos villes d'aujourd'hui. Hein. Donc je pense qu'en 2110, ça ne sera pas forcément très différent.
Effectivement, moi, j'ai quand même le sentiment, on avait vu par exemple ici même une grosse exposition de Squitten, où il avait mis en place un système, bon, un gros travail sur l'urbanisme et de l'architecture, disons, utopique, on pourra dire, et avec un système, disons, de déplacement individuel, petits véhicules à base de bois qui se raccrochaient les uns aux autres, alors ça devenait un système collectif. Alors entre guillemets, c'était extrêmement séduisant, mais je dirais, moi j'ai quand même le sentiment aujourd'hui que les solutions ne viendraient pas forcément de dessinateurs ou de designers utopistes, mais viendraient plutôt de personnes comme les collègues de Peter et Peter lui-même, avec peut-être un discours peut-être un peu trop réaliste par rapport à l'utopie demandée, à cet espoir nécessaire pour qu'on puisse croire quand même en une solution d'ici la petite centaine d'années. Mais parce que si on n'y croit pas, la petite centaine d'années paraîtra, ne sera pas là, quoi. On aura effectivement d'autres soucis, quoi.
Je suis surpris et un peu déçu que personne n'ait parlé des dirigeables. Est-ce que c'est moyen de transport? Bon, c'est du steampunk peut-être, mais est-ce qu'on peut en parler pour l'avenir? Est-ce qu'on a complètement oublié le Hindenburg et tout ça, l'efficacité de tout ceci? Si, bon, est-ce qu'on veut avoir une vitesse plus lente pour couvrir des distances plus longues? Bon, je ne sais pas, est-ce que... Moi, en fait, je pense que ça va être la façon de l'avenir, peut-être, pour les 20 ou 30 années à venir, je ne sais pas.
Sur les dirigeables dans l'esprit, entre guillemets, occidental, urbain, on dira, c'est le même frein que le transport fluvial, en fait. Parce que la péniche remplace largement un transport, routier, comme le dirigeable pourrait effectivement être une solution à quelque chose, d'un peu plus doux, mais moins rapide, comme tu le dis. Bon, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un vrai frein là-dessus, quoi.
J'ai essayé de mettre quelques dirigeables dans le diaporama aussi, pour montrer que c'était une piste. Effectivement, nous n'avons pas eu le temps de couvrir, je dirais, chaque possibilité, chaque type de transport. On n'avait pas assez de temps pour faire ça. Mais j'ai quand même essayé de garder 5 minutes pour donner la parole au public. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des choses, des questions à poser sur le transport et le futur ?
Bonjour. Je voulais savoir s'il était possible d'attendre des évolutions concernant les nuisances du transport, c'est-à-dire tout ce qui concerne le stress, les accidents et le bruit aussi. Le bruit est très exaspérant pour les riverains notamment.
Enfin, concernant les nuisances, j'ai l'impression qu'il y a quand même des améliorations de plus en plus grandes dans les voitures, mais...
Oui, alors... En ce qui concerne l'accidentologie, comme vous le savez, il y a un certain nombre de recherches en matière automobile, d'avoir justement des voitures qui soient dans lesquelles les systèmes automatiques remplacent le réflexe des conducteurs, puisqu'il y a des recherches actuellement sur des voitures qui finalement se calculent leur distance par rapport à la précédente de façon à éviter les collisions. Donc il y a toute une série de recherches dans ce domaine-là. Le bruit, c'est aussi une recherche permanente de diminuer le bruit de l'ensemble des moteurs, y compris des roulements, si on parle tramway, des roulements rail et roues, mais le faire, ça fait toujours un peu de bruit. Alors effectivement, il y a des recherches. Je crois qu'on a quand même baissé les niveaux de bruit quand on regarde ce qu'étaient les systèmes il y a 50 ans. Et en même temps, je pense que l'exigence des riverains est plus forte aussi que celle de nos riverains d'il y a 50 ans. Donc c'est une espèce de course-poursuite.
Alors, oui, mais la densité du transport a augmenté. Donc,
oui, c'est vrai.
C'est moins plus faible, mais plus long. Plus...
Oui, puis l'exigence des citoyens a monté aussi. C'est tout à fait compréhensible. Hein. Alors, donc il y a des recherches là-dedans. Il y a plein de recherches.
Mais paradoxalement, il y a une histoire. C'est lorsque les premières voitures électriques ont été inventées aux États-Unis, les constructeurs ont été obligés d'intégrer dedans des haut-parleurs pour faire du bruit, pour que les piétons entendre les voitures arriver, parce qu'ils étaient tellement habitués à entendre les voitures arriver qu'il y a eu plein d'accidents dus à des voitures électriques parce que les gens ne les entendaient pas arriver. Voilà, donc... D'autres questions ? Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer de dire chacun un mot de la fin. Ah ? Une question ?
Qu'en est-il de la vitesse et du besoin qu'ont les gens d'aller toujours plus vite ou le rapport au temps qu'il y a aussi dans les transports ?
Je vais essayer d'y répondre. Je pense que c'est un besoin pour la vitesse. Ce qui cause cet impératif à aller vite, c'est juste une question de « je dois faire ça vraiment très très vite avant de mourir, sinon on n'a pas le temps ». Et moi, je défendrais en fait de se séparer totalement du transport, hein, tout simplement. Si on veut voyager pour le plaisir, alors oui, on n'a pas besoin d'aller vite. Et mais si on veut un petit peu de frisson peut-être, hein, si on veut courir, alors je serais d'accord pour dire que les jeux vidéo, dans ce cas-là, avant, on aura des stimulations magnétiques pour vous nous donner ce sentiment de vitesse et qui ira bien au-delà de ce que l'on peut avoir aujourd'hui, qui est assez primitif. Donc si on veut avoir cette rapidité, on l'aura par les jeux vidéo peut-être, sans avoir à se déplacer réellement, et donc et l'autre cerveau nous dira qu'on expérimente ce genre de choses. Donc l'esprit est assez malléable dans ce domaine.
Il y a un certain nombre de théories qui existent, comme quoi le budget temps consacré par l'individu au déplacement est quelque chose d'assez stable dans l'évolution du temps. Simplement, comme il a besoin aujourd'hui d'avoir un univers de choix plus grand, on peut dire que si on augmente la vitesse, on va donc augmenter son univers de choix, puisqu'on va consacrer globalement le même temps global au transport. Alors, moi, je ne suis pas persuadé de cette théorie, mais enfin, aujourd'hui, c'est celle qui préside beaucoup à un certain nombre de calculs économiques sur les déplacements. Moi, je pense qu'on gagnerait tous à ce qu'on réduise nos temps de déplacement et qu'on consacre ce temps à autre chose. Mais bon, puisqu'on parlait du plaisir tout à l'heure, je ne suis pas sûr que toujours le temps de déplacement soit un temps de plaisir.
Une autre question ? Une dernière question ? Oui.
Il y a une chose que je me demande, c'est par rapport à l'évolution de la population mondiale, comment les transports vont arriver à gérer en fait cette augmentation de population pour pouvoir arriver à déplacer les gens ?
Comme disait Peter, en ne mettant pas de barrière hermétique entre nous et les épidémies mondiales.
Ça, c'est une solution pour la surpopulation, ça. Pas pour le transport.
En ce qui concerne les derniers modèles, on n'a pas à s'en soucier dans les 40 premières années. Je pense que la population va atteindre un pic en 2050 et après va se stabiliser, voire descendre. Notre histoire en tant qu'espèce a été de vivre dans les quelques kilomètres autour de notre lieu de naissance, en fait. Et c'est quelque chose, bon, aujourd'hui, qui nous permet d'avoir... Bon, je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire et qu'il y ait un besoin impérieux de permettre aux gens de partout dans le monde de voyager partout dans le monde. Oui, bien sûr, c'est ici l'hypocrisie peut-être d'un Canadien, mais bon, qui vient de passer un week-end ici. Mais si on me permet de le dire, je vais le dire, mais bon... Bon, si ce n'est pas le cas, ça ne va pas me tuer non plus. Hein. Je pense qu'un des problèmes de notre planète aujourd'hui, c'est que nous, on confond la volonté avec le besoin, en fait. Beaucoup de nos problèmes ne seraient pas aussi intenses, en fait. On veut bien le croire.
Bien, écoutez, je vous propose un petit mot de conclusion.
Bah écoutez, moi, je vais, en tant qu'illustrateur, je vais ramener ça un petit peu au dessin, puisque on a beau envisager des solutions, j'ai quand même l'impression que l'idée spontanée peut encore germer, et que vu que chaque idée est passée à la conception par le biais d'un dessin obligatoirement, je m'adresse aux parents dans la salle, laissez vos enfants dessiner. On ne sait jamais, peut-être que l'idée viendra d'eux.
Non, moi, j'ai pas de conclusion, si ce n'est de dire ce que je pense que le futur n'étant pas aujourd'hui écrit, tout ce qu'on peut raconter aujourd'hui, c'est simplement une espèce d'extrapolation de ce qu'on pense. Donc, je ne crois pas non plus quand même à l'idée géniale qu'on aurait oubliée quelque part. Mais bon, après tout, c'est une façon optimiste de voir le monde. Moi, je n'ai pas cette façon aussi optimiste. Donc, je pense quand même que rien n'étant écrit, on a quand même un certain nombre de progrès à faire. Et ces progrès, ils sont... plus intrinsèquement dans la conception de nos villes, si on veut parler de déplacement.
Je dirais que la forme suit la fonction et que le transport, en termes d'impact, répond à un besoin spécifique. Et donc, ce qui est évident de faire, c'est d'évaluer et savoir quels sont ces besoins et comment on peut y répondre sans avoir besoin réellement d'un transport physique pour essayer de répondre et résoudre nos besoins.
Messieurs, je vous remercie beaucoup pour cette heure passée avec nous. Et,
merci.
Je remercie tout le public qui nous a écoutés.